Ah ben quand même, on a une chance inouïe. Parce que là, je vois un spécialiste, messieurs, dames, un spécialiste qui est avec nous ce matin. Un spécialiste de la créativité. Et quand je dis créativité, attention, XXL. J'ai nommé François de la Rosière. François, directeur artistique, créateur des machines. Donc, il est venu ce matin pour nous donner sa recette à lui, quelques secrets de sa recette personnelle. La recette, en fait, qu'il fait lever tous les matins pour aller travailler, pour créer et pour manager sa formidable équipe pluridisciplinaire, celle qui conçoit ces magnifiques machines. On a le plus grand plaisir. Donc François, je te laisse la parole.
Donc je suis François Larosière, je suis directeur artistique de la compagnie La Machine et de la halle de La Machine, lieu qui vient d'être s'ouvrir à Toulouse. La compagnie La Machine, c'est environ une centaine d'équivalents temps plein, avec un atelier à Nantes sur l'île de Nantes, un atelier à Tournefeuille dans un lieu mutualisé qui s'appelle l'usine, et récemment la halle de La Machine à Montaudran, qui est un lieu qui vient de s'ouvrir. Alors, la compagnie La Machine développe un travail qui s'intéresse avant tout au théâtre dans l'espace public, au théâtre de rue. Et ce travail dans la rue, au bout de quelques années, a émargé sur l'architecture et aussi sur un petit peu l'urbanisme, puisque le travail que nous faisons dans l'espace public a évolué et tend aujourd'hui à accompagner le développement de quartiers, ou de ville hein, entière, et je vais vous en parler un peu. Alors, au cœur du travail de recherche que mène la compagnie La Machine est le mouvement. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais au Beaux-Arts il y a à peu près 25 ans avec des amis, on était en train de construire une machine, et j'avais démonté d'une 4L un moteur d'essuie-glace à traînerie qu'on avait posé sur la table dans le but de faire bouger une caméra. Et l'un d'entre nous a connecté la batterie au moteur et a allumé l'interrupteur à ce moment-là. Les essuie-glaces sont mis en place et la machine s'est déplacée lentement sur la table. Alors on s'est tous observé, c'est assez joli, on avait l'impression qu'elle dansait comme ça. Et la même personne a passé le moteur sur la vitesse rapide, vous savez qu'il y avait beaucoup de pluie. À ce moment, la machine est devenue agressive et violente, elle a renversé les tasses de café, les stylos, tout ce qui était sur la table. Et donc on a vécu en l'espace de quelques minutes deux émotions assez puissantes, et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'un assemblage d'objets inertes par le mouvement pouvait provoquer de l'émotion, fabriquer de l'émotion. C'est comme ça qu'on a commencé à construire des machines. Et lorsqu'on doit construire une machine, souvent ce sont des grandes machines qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes, je m'inspire avant tout de la nature. Je vais regarder parce que je pense que la nature est une source d'inspiration absolument inépuisable. J'observe la nature pas pour la reproduire ou essayer de la copier, puisque je pense que jamais l'homme n'arrivera à approcher de 10% de ce que la nature est et représente, mais c'est une espace tellement puissante qu'à travers la nature, observant le comportement animal, le comportement végétal, on arrive à s'inspirer de la nature pour fabriquer des machines et créer en fait une biologie mécanique. On ne cherche pas à reproduire la nature. Alors là, par exemple, vous avez une girafe derrière moi que j'ai dû dessiner pour l'an 2000, c'était pour une compagnie à l'époque qui s'appelait encore d'ailleurs Royal Deluxe. Et j'ai pas trouvé de synoptique du mouvement de la marche. Donc je suis allé dans un zoo, filmer une girafe, et puis avec le bouton pause sur la télé et un calque, j'ai décrypté image par image le développement de la marche et j'ai obtenu une synoptique qui nous a permis en fait de concevoir notre machine girafe. Pourquoi j'appelle ça une biologie mécanique? Si vous cherchez à imiter la nature ou à la copier, vous serez toujours en dessous et vous serez un mauvais décorateur ou un mauvais constructeur. Si vous créez un nouveau langage, si vous créez une machine vivante, une machine biologique qui s'inspire de la nature, vous allez inviter le public à apprivoiser l'objet que vous êtes en train de créer, puisque vous créez une nouvelle forme biologique inconnue. Et là, le regard change. On n'est plus dans l'imitation, on est dans un langage nouveau, un langage sculpté qui s'exprime et qui raconte sa propre histoire, et on s'y intéresse. Alors, quand je fais un dessin, je fais un dessin pas pour que les constructeurs reproduisent mon dessin, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est de poser la première pierre, en fait la base d'un travail qui va inspirer les constructeurs, qui va les nourrir, qui va leur donner une direction, une direction artistique, et chaque constructeur va, avec son savoir-faire, sa sensibilité, ses connaissances, sa technique, va agir, interpréter le dessin et construire l'objet avec cette sensibilité. C'est-à-dire si le constructeur est plus chaudronnier, il y aura un peu plus de tôle chaudronnée. Si on a quelqu'un qui est spécialiste du cuir, il y a peut-être un petit peu plus de cuir sur la machine, etc. Ce qui fait que ce qui m'intéresse personnellement de la construction, c'est pas le résultat, mais c'est le processus. Si le processus est bon, le résultat sera bon. Si vous cherchez le résultat mais que le processus ne fonctionne pas, vous pouvez rater votre résultat. La différence est importante parce que ça veut dire qu'on va s'attacher à l'acte de construire, le moment où on va fabriquer, et on va essayer d'obtenir le résultat par le plaisir et par l'implication de toute l'équipe. Alors, nos machines sont des machines de spectacle, elles jouent dans des spectacles, une heure, deux jours, trois ou quatre jours, mais à force, elles ont fini par acquérir une deuxième fonction en s'installant de façon plus pérenne dans les vies. Elles sont passées du statut de machine de spectacle à machine de vie. Une machine de spectacle devient machine de vie lorsqu'elle reste dans un territoire, dans un quartier, et qu'elle acquiert la fonction de transporter les personnes sur son dos. Elle devient le transport en commun, transport de personnes, et à ce moment-là, elle crée un théâtre infusé au quotidien dans la ville, ce qui est vraiment différent du temps de théâtre et de spectacle. Nous avons construit des machines de différentes tailles. Là, vous avez derrière moi l'Aéroflora 2, qui est un engin volant, qui atterrit par surprise en pleine nuit dans une ville. Les gens ouvrent leur volet et découvrent une serre volante, un engin volant, équipé d'un aérostat, de quatre pattes et d'une serre chargée de végétaux. On ouvre les volets et puis on a cette aéronef qui a atterri avec autour plein de végétaux, une sorte de campement un petit peu scientifique avec 15 âmes à bord qui étudient le végétal. Donc les passants arrivent, découvrent cette installation, ils disent « qu'est-ce que vous faites, c'est une exposition ?» Non, on a atterri cette nuit à 2h du matin, dans des conditions météo un peu difficiles. Non, mais c'est pas vrai, ça va pas ce truc. Si, vous voyez, les ballons se gonflent, les hélices tournent à 1800 tours minute, et effectivement, on dit, mais alors vous venez d'où? Et à ce moment-là, le théâtre se joue en 4 jours, de 10h du matin à 10h du soir. On répond aux questions du public qui s'interroge, parce que ces chercheurs ont réussi en fait à capter l'énergie électrique qui circule naturellement dans les végétaux et à charger des batteries, ce qui rend l'objet volant complètement autonome. On peut rester à peu près 6 mois en vol sans se poser. On se nourrit du potager mobile bio qui est cultivé à l'intérieur. Les déjections et la décomposition créent le gaz qui gonfle les ballons. Donc ça marche écologiquement complètement autonome. Ça, c'est du spectacle qui a duré 4 jours. Mais on a créé à Nantes, sur l'île de Nantes, qui est un territoire qui fait 5 km de long par 1 km de large, en 2000, un projet qui s'appelle les machines de l'île de Nantes. C'est le centre de l'agglomération. On a 25 communes et l'île est au centre des 25 communes. Donc on a proposé avec mon ami Pierre Morifis, nous sommes co-auteurs de cette aventure, d'installer sur cette île, alors que l'industrie navale est partie, s'est déplacée vers Saint-Nazaire, des machines. Et c'est comme ça que le projet des machines de l'île de Nantes est né en 2007, avec d'abord le grand éléphant, qui a maintenant 11 ans et qui transporte tous les jours 700 par an 50 personnes sur son dos et qui évolue sur le territoire. L'éléphant pèse à peu près 50 tonnes, il est complètement en mouvement et il se déplace dans la ville. Voilà. Alors s'il se déplace dans la ville, à un endroit où peu de voitures circulent, puisqu'il y a une grande zone piétonne, c'est l'endroit, le lieu où on construisait les bateaux à l'époque. Après l'éléphant est né en 2007 et en 2012, le carrousel des mondes marins est arrivé, qui est un carrousel de 3 niveaux qui traite de l'univers de la mer. Et ce carrousel a eu en 2014 un prix international, le prix d'attraction la plus originale du monde. Dans ce carrousel, sur 3 niveaux, on embarque en famille dans des éléments de manège, équipés de manettes, de pédaliers, et de volant, et on actionne en famille, on peut être à 4 ou 5 à l'intérieur. Et il se passe quelque chose d'étonnant pour ce carrousel, c'est que lorsqu'on monte dans une machine, on devient un peu acteur du set, puisqu'on met en mouvement l'élément que l'on chevauche et dans lequel on voyage à 360 degrés. Mais à la fois, c'est une sorte d'arène avec autour ceux qui attendent de monter dans le carrousel qui regardent ceux qui sont en train de manipuler. Donc un jeu d'acteur-spectateur se joue entre celui qui est dans l'élément de manège et celui qui est à l'extérieur. Mais ce manège offre aussi un belvédère à 10-12 mètres de haut sur l'île de Nantes en train de se transformer, de façon aussi d'observer la ville. Alors ça c'est le calamar à l'électropropulsion, le carrosse pour date, la remanta avec le luminaire des grands fonds, les bicyclettes, Donc cette année, je reviens assez actif. Alors, on est en train de s'intéresser au troisième volet du projet des machines de l'île de Nantes avec l'arbre héron qui verra le jour pour l'an 2022-2023, qui est un arbre de 50 mètres de diamètre, qui fait 35 mètres de hauteur avec deux hérons mécaniques de 15 mètres d'envergure à la cime qui peuvent embarquer chacun 20 personnes. Il y aura un café-restaurant au deuxième niveau des branches, il va faire à peu près 1500 tonnes. On accède à l'intérieur du tronc par un escalier à double évolution qui distribue l'accès à 1 km de branche circulable dans lequel sont cultivés des jardins suspendus. L'arbre s'est installé dans une ancienne carrière où on extrayait les pavés pour construire les rues de Nantes. Et actuellement, on mène une grande campagne de financement participatif. Ça a commencé aux États-Unis et en Europe avec Kickstarter, ça va continuer. Et on cherche un tiers de financement privé, un tiers en métropole et un tiers différentes collectivités pour un budget qui va avoisiner les 40-50 millions d'euros. Les hérons sont deux oiseaux mécaniques en mouvement et on pourra s'installer sur le dos de ces hérons et on fera un vol à ce moment-là à 45 mètres de haut. Dans cet arbre, on y visitera des jardins suspendus, mais on y retrouvera aussi un bestiaire de machines, d'animaux, notamment. Le son marche. Voilà, alors c'était le colibri, et le colibri géant, il fait 80 cm de haut, mais on a reproduit le mouvement du colibri, il y aura un lustre à colibri, il y aura aussi un vol de sauvage, 15 vols qui sont en mouvement dans l'arbre, on aura une chenille monteuse, on aura des ascensionnaires, qui sont des ascensionnaires qui permettent de partir du sol jusqu'à la canopée. Et le dernier né, c'est les images graphiques ne sortent pas très bien, mais c'est un paresseux, et lorsqu'on s'approche du paresseux, on tourne un volant très très vite, et c'est souvent en tournant un volant très vite qui fait avancer très doucement le paresseux. Il y a un rapport assez drôle entre cette histoire de mouvement et la lenteur, et un hymne à la lenteur, finalement. Peut-être que c'est un bon exemple. Une des dernières machines qu'on a fait, c'est l'OMA, le cheval dragon, qui a été créé pour la Chine, dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire de la réouverture des relations diplomatiques entre la France et la Chine. L'OMA est une machine qui fait à peu près 45 tonnes, extrêmement mobile, c'est un cheval dragon inspiré des fameux cheval dragons chinois, construit à Nantes, arrivé à Pékin au mois de novembre 2014, et un spectacle qui a vraiment très bien fonctionné auprès des Chinois. C'était la première fois qu'il se jouait à Pékin et en Chine, un grand spectacle de rue, où la foule se déplaçait avec les machines. On est resté pendant 4 jours sur le site olympique et je vous montre un petit film qui montre cette aventure en Chine. Aujourd'hui, le cheval dragon est chinois, il appartient à un riche chinois et il évolue en Chine. La toute dernière machine que certains d'entre vous ont peut-être vu évoluer dans Toulouse, qui est le Minotaur, donc le Minotaur qui est Astérion, et qui a été créé et dessiné spécifiquement pour Toulouse, et qui vit aujourd'hui sous une grande nef de verre, qui est la halle de la machine, sur le site de Montaudran, qui est un ancien aérodrome où s'envolait Saint-Exupéry et Mermoz, avec comme mission d'emmener le courrier jusqu'à d'ouvrir la route, en fait, la route de la mondialisation, et c'est comme ça que les échanges se sont accélérés au départ de Toulouse et qu'une industrie, l'industrie aéronautique, est née. Et donc on est actuellement là, elle est sur cette piste aéronautique, le Minotaur vit là, il se réveille tous les jours transportant des visiteurs sur son dos, une cinquantaine de personnes à chaque voyage, dans le quartier de Montaudran en train de se développer, puisqu'il est en train de naître un quartier de Toulouse sur les 20 prochaines années. Donc le Minotaur est d'abord arrivé dans un grand spectacle, une saga, une sorte d'opéra urbain qui a duré 4 jours dans le centre-ville où Astérion était guidé par Ariane, sa demi-sœur, jusqu'au moment où il se perdait dans le labyrinthe, puis il retrouvait ses ailes et pour retrouver son temple qui est d'une certaine façon cette halle où il vit actuellement. Le spectacle a bien fonctionné, il a accueilli à peu près 900 000 à 1 million de spectateurs dans la ville, c'était une vraie folie. Et ça a été aussi un bon coup économique, puisque ça a généré énormément d'échanges pendant ces 4 jours, et les restaurateurs, les hôteliers, les commerçants étaient très heureux de la présence du Minotaur et de toute cette foule dans la ville. C'est juste pour dire que derrière ces machines qui sont là pour produire de l'émotion et du rêve, il y a aussi de l'économie qui vient se greffer. Et donc, on a ouvert le week-end qui suivait le grand spectacle, la Halle de la Machine, qui est sur un site qui s'appelle la Piste des Géants, qui est un espace dédié à la mémoire de l'aéronautique, mais qui accueille aussi la Halle. Et je vous montre un petit film qui est une métaphore où la Halle est le temple d'Astérion. Alors, je parlais un petit peu, pour construire ces machines, c'est une aventure humaine assez considérable. C'est 2 ans de travail, 80, des fois 100 personnes, beaucoup d'intermittents du spectacle. Et en termes de travail, en fait, l'équipe, les gens avec qui je travaille sont des collaborateurs à tous les niveaux en fait, hein, du travail. On est à peu près 35 à 40 corps de métier à travailler, mais parfois une personne peut avoir 7 ou 5 compétences. Il peut être soudeur, ingénieur, travailler au bureau d'études et aussi venir dans l'atelier, souder ou assembler la matière, ou genre faire de la coordination, manager. Une petite équipe, on se responsabilise par contre par sous-groupe. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer un travail où chacun participe à une aventure sensiblement constructive, et on responsabilise tout le monde à chaque étape au niveau du temps et du budget à tenir et à gérer. Donc ce qui est fondamental, et quand je parle de processus, s'il y a plaisir dans le travail, s'il y a épanouissement, c'est vraiment la base. Enfin, je considère qu'on passe 70% de notre temps éveillé au travail et à travailler. Il faut faire du travail une aventure enrichissante pour soi, enrichissante pour les autres, et avant tout une aventure de partage. Voilà. C'est pas facile aujourd'hui parce que finalement, les lois, les règles du travail nous obligent à tendre vers l'immobilisme, vers la spécificité, l'efficacité, la mono-activité pour être soi-disant plus efficace. En fait, des fois, l'efficacité peut être un petit peu dans le chaos. Voilà. Je vous remercie de votre écoute.